Messieurs, dames, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. On est très très heureux de vous retrouver pour cette proposition un petit peu atypique. L'objectif cet après-midi, c'est de vous faire pousser les oreilles. Donc, ouais, décidément, c'est la thématique lapin. Ouais, je suis désolé. C'est la quatrième année qu'on fait un stage radio, la radio des fous furieux, avec les jeunes du territoire. Et on a fait depuis le début plutôt des directs, avec un rapport à la radio plus proche de ce qu'on a l'habitude d'entendre en format magazine, avec des choses très diverses, et notamment des directs, ce qui est très particulier à gérer pour les jeunes. Et cette année, on a souhaité travailler plus autour d'une création sonore, donc j'en dirai pas plus. Une création sonore, ce qui est un petit peu particulier, c'est qu'on a, je dis souvent, on a autant de yeux que de oreilles, mais on est dans une société des yeux. C'est-à-dire qu'on est beaucoup sur nos écrans, on est beaucoup à regarder les choses, et on développe parfois pas assez nos oreilles. Donc profitez de ce moment pour faire pousser vos oreilles. Et merci d'éteindre vos téléphones portables, très important. Normalement, je vous avais dit au début, jeudi soir du festival, je vais rallumer que samedi à minuit, si vous voulez, quoi. Si vous voulez, normalement, vos téléphones sont éteints. Tout va bien ?
Oui.
Eh bien, bonne écoute à toutes et à tous.
Les amis, ici, j'ai une remarque très intéressante. Le monsieur dit que la forêt, ça change tout le temps. C'est pour ça qu'on l'aime.
Mais carrément, vous avez vu Houle cette semaine?
Bon, est-ce qu'on peut laisser les gens parler? Allez, on y retourne.
Tu vois, elle était géniale, hein. On était en train de dire qu'elle était géniale. Alors vous avez encore rien vu, hein.
Là, le monsieur a une très bonne question. Il demande comment est-ce que ça commence une forêt.
Ah. Oula, moi je sais pas comment ça commence, mais je sais comment ça finit.
C'est malin, c'est pas la question.
Moi, j'ai la réponse. Au commencement, il n'y a qu'une terre nue, tremblante sous les assauts du vent. Puis, une graine tombe, minuscule promesse. Elle s'ouvre, se tend, s'enracine dans l'obscurité féconde. D'autres la rejoignent,
mais quoi ? Stop ! Allez !
Mais je suis tellement d'accord.
Alex !
Mais si, écoutez, le monsieur dit, quand on rentre dans la forêt, il y a un truc.
Ça fait du bien.
Oui.
Mais c'est tellement vrai. Quand on rentre dans la forêt, c'est comme si il y avait une frontière imaginaire. Ça me
Bah moi, c'est plus un endroit de détente, parce que je me souviens, avec mon grand-père, on allait souvent balader, par exemple, là, aux Égaux. Depuis que je suis tout petit, donc... Rien qu'entendre le vent un peu souffler dans les arbres, ça m'apaise un petit peu. Les arbres, les feuilles et tout, c'est... C'est reposant. Ça, et puis... Bon, là, en ce moment... Plus trop, mais faudrait que j'y retourne. Mais voilà, après, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire.
Bolet Satan, gonfie de glutineux, paxille enroulée, amanite épaisse, amanite rougissante.
Pour une question...
L'épiote
âpre. Justement, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui se passe ?
L'épiote élevé.
Dans notre corps ?
Coulemel.
Ou qu'est-ce que la forêt fait pour qu'on se sente bien, direct, apaisé et tout ?
Tout de suite, non, si on me dit ça, non, je me pose pas de questions.
Inocible de patouillard. Tricholome de la Saint-Georges, mousseron de printemps.
Campagnol terrestre.
Clitocybe à pied en massue.
Canard, colvert.
Armillaire, canard, couleur de miel.
Canard de surface.
Cortinaire à odeur de bouc.
Castor.
Ébellum à pied fusiforme.
Cerf de Virginie. Cerf noble, cervidé.
Coprin chevelu.
Bah à Paris, il n'y a pas trop de forêt. Mais du coup, le plus souvent, j'y vais quand je suis à Tours, chez ma mamie. En vrai, souvent, j'ai un peu la flemme d'y aller. On y va pour promener le chien. Mais finalement, enfin, une fois qu'on y est, en vrai, c'est vraiment un lieu agréable. En fait, on se sent un peu... On est un peu pris par l'ambiance du lieu. C'est calme, genre, il n'y a pas tout le bruit ambiant... qui est tout le temps présent à Paris, en fait. Il y a les gens qui parlent, les voitures qui passent. Du coup, c'est un lieu agréable qui repose, en fait.
Alors, on sait que vous avez un lien particulier avec la forêt. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu qu'est-ce qui vous attire dans ce monde-là ?
Je suis Philippe Rodriguez. J'ai toujours eu un grand intérêt pour tout ce qui touche à la nature, au vivant, et plus je la découvre, plus c'est merveilleux. La mer me manque toujours, parce que je suis né au bord de la mer, le littoral me manque toujours, mais ici, il y a une telle compensation en termes de richesse de milieu par rapport à la côte varoise qui aujourd'hui est complètement bétonnée, à part quelques espaces, et il y a beaucoup trop de monde pour moi maintenant que... Oui, je reste... Enfin, voilà. Bon, mon cœur balance entre les deux. J'ai toujours ce besoin de temps en temps d'aller rendre visite à la mer, mais pour me sentir vraiment bien, moi, il n'y a pas photo, c'est être vraiment en montagne. On se retrouve ici dans des endroits où vous passez des journées entières à voir personne. Ça, c'est une chance extraordinaire, hein, par contre. Avec les pays du Bêche ici, on a une montagne très très diversifiée. Là, dans le quartier, je ne parle pas que du département des Hautes-Alpes. Même si c'est moins majestueux que la haute montagne, comme l'Ubaye ou le Kerak, on a beaucoup plus d'écosystèmes ici et beaucoup plus de plantes et de milieux à découvrir. C'est un des écosystèmes les plus riches d'Europe. Plus je le parcours, plus je m'éclate, moi.
Ah, la forêt, c'est différent d'un espace ouvert. La sensation n'est pas du tout la même. Quand on est en montagne au-dessus de la forêt, on a les sommets, on voit les glaciers ce qu'il en reste, les rochers, les falaises, les alpages.
Ici, on est moins concerné, hein, à part monter sur le Dévoluy, mais sinon, c'est vraiment avec l'Ubaye, le Kera, ou le Champsaur, le Val-Gaudemar, où dès qu'on passe la barre des 2500 mètres, après, on atteint l'étage minéral, et là, il n'y a plus que de la caillasse et quelques rares plantes très, très spécialisées, adaptées aux pierriers ou au froid. Il faut voir le côté polysémique de ce qui est à l'œuvre.
Ouh là là !
Vous montez, il y a une élévation, il y a un effort, il y a un engagement. Vous arrivez en haut, vous changez de point de vue.
L'espace est ouvert.
Vous faites un pas de côté.
C'est le paysage.
Vous voyez plus loin.
On admire le paysage. Et là, on est dans l'admiration. Alors que quand on est dans la forêt, eh ben on est dans une sensation beaucoup plus intime, beaucoup plus interne à soi-même. On admire aussi, mais les choses sont proches, là, on est vraiment dedans. Le fait de voir des arbres vieux, des arbres tombés, des arbres pleins de champignons, pleins de mousse, pleins d'insectes, eh bien, ça fait beaucoup de sensations. Ça fait qu'on se reconnecte vraiment au vivant. Tous nos sens sont sollicités. Non seulement on voit, on entend, on sent. Alors on a les odeurs qui nous arrivent, là, qui nous prennent. Et puis en même temps, ben on peut toucher.
Il y a toutes ces dimensions qui sont à l'œuvre, sans parler à un moment donné des processus de pensée, puis de rencontres. À un moment donné, je vois une plante qui est dans une situation pas possible ou que je ne connaissais pas. Ça peut être des champignons ou une roche. Et ça peut être le lointain. Donc ça peut être si bien quelque chose de très micro ou un insecte, ou quelque chose de très macro. Le merveilleux, il peut avoir lieu avec une petite araignée très colorée qui guette à la base d'une fleur, qui va être rose ou vert fluo, que, on va dire, un animal symbolique ou marquant comme un aigle. On va s'attacher à sauver les baleines ou les dauphins les éléphants, les rhinocéros, parce que ce sont des grands mammifères et qui sont très symboliques. Mais pour moi, c'est pas moins merveilleux que d'observer un insecte qui a des formes ou une complexité incroyable.
J'étais récemment dans les Vosges. Vraiment, je me suis retrouvée complètement prise dans cette mousse parce que tout est vert.
Vert émeraude, vert sinople, vert anis,
vert véritable,
vert lichen.
Et dans la forêt, tout est vert. On ne voit même pas les troncs d'arbres parce qu'ils sont tellement recouverts de mousse
émeraude.
Qu'on ne voit plus, on voit plus les écorces. Que les arbres soient tombés par terre, ils sont couverts de mousse. Même ceux qui sont encore debout, plantés, bah, ils ont de la mousse jusqu'à 2-3 mètres de haut. Il y en a qui sont plus hauts, d'autres qui sont plus foncés. Des petites étoiles.
Vert anis.
Ocre.
Elles sont variées, ces mousses. Et en même temps, elles sont très humides. L'humidité, c'est quelque chose qui nous pénètre aussi. Ici, dans les Hautes-Alpes, on a très très rarement l'occasion de voir de la mousse. Je connais quelques coins, mais c'est vraiment quelques coins rares.
Ambre, ocre, émeraude.
Il peut y avoir de très belles choses à voir en hiver, même si l'hiver peut être long et avec un décor qui est peu changeant quelque part. Mais vous voyez, par exemple, le dimanche, je suis allé marcher, la pluie est arrivée un peu plus tôt que prévu, encore une fois vers la Cluse, parce que j'aime bien ce quartier-là. Je me suis retrouvé avec un ciel très bas qui est tombé, du coup on ne voyait plus les hauts sommets. Ça changeait complètement le paysage. C'était des landes, c'était fantomatique, c'était même avec un temps ingrat, le paysage était quand même magnifique.
En ce moment, elle est belle, forcément.
Jaune, safran, jonquille.
Des jaunes, des rouges, chrome. Des bleus, c'est Broadway, quoi. Oh. C'est extraordinaire.
Ambre, ocre,
c'est jaune, cacao, c'est rouge.
Orange, tangerine,
cacao,
jonquille,
corail,
émeraude, cadmium, érable, sycomore, garance, les hêtres, vermis, les mélèzes, ocre,
carmin,
doré,
rouge, cinabre, carmin, rouge, amarante,
les feuilles mortes au sol, gris,
rouge, cramoisi,
amarante.
La semaine dernière, je suis allé au col de Rabou, j'ai trouvé le feu d'artifice des couleurs d'automne est extraordinaire ici. Donc voilà, en me mettant tout en haut, je peux rester une heure à regarder ce tableau.
Et c'est sympa quand on voit pointer des petits champignons là-dedans.
Et qu'est-ce que vous ressentez lors de vos randonnées dans la montagne ?
Cette beauté de la forêt, quoi. Il y a des forêts qui apparaissent, qui disparaissent, même sans l'homme au fil du temps. Elle arrive à rester belle dans quasiment toutes les situations. Quand les arbres sont encore minuscules, quand il neige, quand il pleut, finalement ça reste beau, même quand il n'y a rien. Même une forêt en flammes, finalement, il y a un côté majestueux. Il y a un côté beau quand même, finalement.
Autour de la maison, le sol crépite, piégé par le givre. Il va falloir continuer à couvert. Les aiguilles des conifères étoufferont mes pas. Je pénètre l'épaisse forêt à l'aveuglette. Pour m'habituer à l'obscurité, je fais la souche, toute droite, très attentive. Un vacarme minuscule colonise la nuit. En me concentrant, je suis capable d'entendre la succion d'une larve qui mâchonne le bois. Plus bas, le torrent hoquette, sans couvrir tout à fait le sifflement d'un merle. Je me contracte, bloque ma respiration. Effacer le souffle, annuler la distance. Je peux deviner dans quel arbre l'oiseau est perché, sur quelle branche. J'ouvre très grand mes yeux, me faufile dans l'ombre, à droite, à gauche, entre les troncs, le plus vite possible. Je grimpe dans les plus proches, observe les alentours. L'aube lessive l'horizon.
Le sanctuaire Laurine Roux.
Oh, l'arbre frappé par la foudre.
Elle est pas là, la crotte.
Oh là là.
Il y a une présence dans la forêt. Une réelle présence. Je suis Monsieur Carillo Ange, j'ai 82 ans. Mon mode de vie, c'est la vie érémitique, c'est-à-dire je vis en ermite. On se fait une image d'épinal de ce qu'est l'ermite, à savoir, on imagine quelqu'un qui vit dans une grotte, qui marche à quatre pattes en train de fouiller pour manger des racines, vous voyez ? Non, c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. L'ermite apprend à faire taire son ego. La solitude ne me pèse pas du tout, bien au contraire. Je suis né dans une zone pré-saharienne, sur les hauts plateaux algériens. J'habitais l'extérieur d'une petite ville dans le désert qui s'appelle Saïda. Enfant, on chassait au lance-pierre, jusqu'à devenir même de véritables des tireurs d'élite même. La nuit, sous la lune, on servait de la clarté de la lune qu'on plaçait suivant la position du corps, par rapport dans les acacias par exemple. Et dès qu'on voyait la masse qui se distinguait dans le clair de la lune, on tirait. J'ai été chasseur pendant presque 40 ans. Je pratiquais la chasse à la manière des Indiens d'Amérique. Je peux vous donner là une toute petite anecdote. Lorsque le docteur Saxton Pope, anthropologue, a pu joindre cet Indien qui s'était rendu au shérif d'Auroville, qui était très malade, la tête rasée, donc la fin d'une nation, le deuil, qui était inapprochable puisqu'il vivait dans ce qu'on appelle le Chaparral, qui est au pied du mont Lassen. C'est un coin très sauvage. Et c'est lui ensuite, cet ethnologue, qui a pris aux Blancs à chasser suivant la manière indienne des Yana, la tribu des Yana. L'arc, c'est toute une technique. C'est une arme primitive qu'on ne peut pas construire de n'importe quelle manière. Il faut choisir un bois dont les fibres sont bien parallèles, ce qui n'est pas évident. Alors les Indiens conservaient ça dans des pots de loutre pour éviter que le bois vienne à bouger. Les cordes étaient faites en tendons de daim tressés avec les dents, ce qui faisait que ça vous faisait des arcs de plus de 100 livres de puissance. Ces chasseurs amérindiens étaient capables de tuer jusqu'à 40 mètres un daim, par exemple. Le chasseur à l'arc est un chasseur sérieux parce qu'il évite de blesser. On ne veut pas d'animaux blessés dans la nature. Donc on tire à distance raisonnable pour être sûr qu'il y a mort rapide.
Et donc avec l'arc, quel animal on peut tuer justement dans les bois qui sont ici ?
Alors vous aviez le sanglier, vous aviez le chevreuil principalement, le lapin. Je dirais que là, il faut savoir, le lapin de Garenne, on ne peut pas le chasser à l'arc, ni à la course, bien sûr. On peut le chasser à l'arc que si on est, comment dirais-je, il faut faire un affût. Il faut être à l'affût. Il faut attendre la sortie le soir ou le matin, à la montée des luzernes, ou le soir à la sortie des terriers. La plus belle chasse qui a été la mienne, ça a été la chasse à l'approche. C'est-à-dire, il n'y a pas de chien, il n'y a rien, il n'y a que vous. Il faut d'abord repérer le secteur où vit l'animal. Un chevreuil est capable de vous sentir à 200 mètres. Donc c'est extrêmement complexe. Lorsque j'avais aperçu, par exemple, un brocard, c'est-à-dire un mâle chevreuil, je me déterminais à ne tuer que celui-là et pas un autre. C'était pour moi une forme de jeu avec lui. Voyez ? Et c'est comme ça que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses de la part de ces animaux.
Chasse à l'épervier.
Ils
chasse
m'ont instruit, en fait.
Chasse à la
force. Le fait de les chercher. Et chasse des fois sur plusieurs jours.
Chasse à la hutte. Chevrotine. Os. Ours brun. Chasse à l'épervier. Chasse par force. Chasse à la française.
Est-ce qu'une mort rapide chasse sans souffrance est une mort respectueuse ? Sinon, c'est quoi une mort respectueuse ?
Si vous voulez, lorsque vous touchez le point sensible du corps, c'est-à-dire poumon, cœur, en général, rapidement, le cerveau n'est plus alimenté. Vous allez blesser un animal à la cuisse. Alors là, c'est terrible. Soit au niveau de la douleur ou à la colonne, d'où la nécessité d'avoir des chiens. Il faut les retrouver, des fois on ne les retrouve pas non plus. C'est pour ça que tout ça, moi, personnellement, j'ai arrêté.
Amorce. Massacre.
Je vais être franc avec vous, j'ai chassé à la manière de ceux qui en ont besoin. Comme d'un métier, presque. La chasse aujourd'hui, j'en vois moins le sens qu'avant. De moins en moins.
Et on voit que vous avez un peu un rapport spécial avec les animaux. Est-ce que, du coup, ça ne vous dérange pas quand vous les tuez ?
Je ne chasse plus.
Quand vous les tuez avant ?
À l'époque, il y avait un sens.
Puce, arbalète, tourterelle des bois, tourterelle à collier, arme rudimentaire, chasse à l'épervier, chasse par force.
Le gibier abondé, même chasse le petit gibier. Aujourd'hui, tout ce petit gibier s'est raréfié.
Chevreuil.
C'est même catastrophique en France.
Os, ours brun, nuisible, griffe de renne. Nette rousse, grive litorne, niche, Hermine, Alouette, pollution, amorce, massacre, armes rudimentaires, chasse à l'épervier, chasse par force, chasse à la française, amorce, massacre, chasse au gabion,
pourpre,
chevrotine,
garance,
os,
vermine,
ours brun,
cinabre,
nuisible,
cramoisi,
vêtements,
carmin,
grive,
amarante,
aile de rabat, hermine,
corps vidé.
Et ça fait combien de temps que vous êtes arrivé dans cette région ?
Depuis 21 ans maintenant.
Et c'est à partir de ce moment-là que vous avez arrêté de chasser ?
Alors, je respire à fond. Tire l'un des couteaux à ma ceinture et le lance. La lame tournoie un instant à la lueur des chandelles avant d'atteindre la chouette au poitrail. Gicle les groseilles.
J'ai continué à chasser un petit peu et puis j'ai rapidement compris que par rapport aux forêts du Diois, il y avait un souci. C'est un climat un peu différent. Les chasses d'approche sont beaucoup plus difficiles, parce que c'est des climats un peu plus secs malgré tout. Dans les bois, vous pouvez marcher n'importe où, vous craquez, vous vous faites annoncer à des kilomètres. Et donc, voilà, c'est ce qui déterminait à finalement mettre fin à cette chasse.
Et vous n'avez pas ressenti de manque ?
Non, 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 la forêt est toujours là.
Orchidée, mousse, lichen, musaraigne, pluie, printemps, coucou, couleuvre, mystère, fleuve, dent, scie, bruit, esprit, noir, craquement. Chemin, brume, corbeau, hiver, froid, grotte, giclée, groseille, rouge, amarante, loup, perte, foudre, fantôme, spectre.
Sauvages passaient près d'elle, mais ne lui faisaient aucun mal.
Ils arrivèrent enfin dans un grand bois, où ils ne voyaient ni chemin, ni sentier. Ils s'avancèrent fort avant, croyant toujours en sortir. Mais plus ils allaient, plus ils s'enfonçaient et s'égaraient.
Quand la jeune fille marcha longtemps dans la forêt sombre, elle vit une clairière étrange semblait murmurer entre eux. Des crânes humains, les yeux en pluie, les chouettes la suivaient, brillaient d'une lumière verte, et le vent lui soufflait au visage. Les arbres, comme s'ils voulaient
se pencher pour
Pourquoi ? T'aimes pas les histoires ?
Bah celles-là, elles font trop flipper vos histoires. Mais d'ailleurs, elles viennent d'où ?
Blanche-Neige, des frères Grimm. Baba Yaga, un conte slave.
Le petit poussé de Charles Perrault.
Oh, c'est les Gretel, les frères Grimm.
La forêt, un conte russe.
Podane, de Charles Perrault. Charles Perrault, les frères Grimm, et même des contes traditionnels décrivent la forêt pour en faire un endroit effrayant où on n'a pas envie de s'aventurer. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes éduqués à trouver ce lieu sinistre et inquiétant. Mais quand est-ce que ça s'arrête ?
Ouais, bah tout ça, c'est de la faute des conteurs.
Mais attendez, finalement, je me demande, est-ce qu'on a peur de la forêt à cause des histoires que l'on nous raconte? Ou est-ce que les contes ont été écrits parce qu'on a peur de la forêt?
Elle sortit du palais et s'enfonça dans une grande forêt. Ne sachant où elle allait, elle pleurait et tremblait.
Ils marchèrent toute la journée sans trouver la moindre issue pour sortir de la forêt. Ils étaient fatigués et affamés. Et quand vint la nuit, ils se couchèrent sous un arbre et s'endormirent.
Quand la jeune fille ouvrit les yeux, elle vit une clairière étrange. Des crânes humains sur des pieux brillaient d'une lumière verte. Les arbres semblaient se pencher pour écouter.
Quand elle fut seule dans la grande forêt, la pauvre enfant eut si peur qu'elle se mit à courir sur les pierres pointues et dans les épines. Les bêtes sauvages passaient près d'elle, mais ne lui faisaient aucun mal.
Ils arrivèrent enfin dans un grand bois où ils ne voyaient ni chemin ni sentier. Ils s'avancèrent fort avant, croyant toujours en sortir. Mais plus ils allaient, plus ils s'égaraient et s'enfonçaient.
Elle marcha longtemps dans la forêt sombre, où les arbres semblaient murmurer entre eux. Les yeux rouges des chouettes la suivaient, et le vent lui soufflait au visage, comme s'il voulait l'arrêter.
Ce mystère des bois ou de la forêt, comme vous voulez, c'est un mystère qu'on est loin d'avoir percé encore. Très loin.
Forêt, c'est un lieu, quand on en parle, qui me fait un peu peur. Il y a beaucoup d'histoires qui finissent mal dans la forêt. C'est un lieu comme ça qui est pas très rassurant parce que c'est assez sombre. Il y a des grands arbres, t'es entouré en fait par des arbres qui empêchent parfois la lumière de passer.
Il y en a qui pensent que la forêt, elle est oppressante.
Un peu...
Elle fait peur. Elle fait peur. Oui, voilà. Alors qu'on y est en sécurité dans la forêt.
Vous n'avez pas peur en forêt ?
Bah non.
C'est un milieu très accueillant, en fait. C'est un milieu même où vous pouvez survivre. Eh oui. Comment je rentre dans une forêt ? Il y a un respect, j'ai envie de dire. Après, il y a un comportement qui va se développer que la forêt va vous enseigner elle-même. C'est tout un monde. C'est pour ça que je vous dis qu'il peut paraître mystérieux, mais il faut le fréquenter pour le découvrir petit à petit. J'ai quand même vu un écureuil venir jusqu'à moi, sur une branche à, je ne sais pas, à peut-être 1 mètre, 1,50 mètre, qui frappe avec ses pattes de derrière. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais là ? Il n'a pas peur, en fait. Il y a toujours cette part d'inconnu. À vous de vous défaire de vos peurs, mais il va vous aider à le faire aussi. La forêt aide à cela. Elle apaise. Je dirais même, j'ai envie de dire qu'elle guérit.
Et qu'est-ce que vous ressentez lors de vos randonnées dans la montagne ?
Un bien-être énorme. Et puis l'émerveillement. Et puis plus on va au contact, plus ça fait sens. Très belle rencontre, ça a été, j'étais sur une des montagnes de la Cluse, j'étais adossé à regarder le lointain et puis à bouquiner en même temps, et tout d'un coup j'entends un grand pouf, enfin espèce, et je tourne la tête, il ne m'avait pas vu, un aigle royal se pose à 5 mètres, et il a tourné la tête, donc ça a été une rencontre de quelques secondes assez fabuleuse, et immédiatement il est reparti, il a repris son envol avec son envergure immense. Ça c'est des rencontres avec une très belle lumière en plus de fin d'après-midi, c'était génial ça. Voilà.
C'est plus qu'étonnant. Le regard d'un loup sur vous, c'est vraiment prenant. C'est un animal qui, je ne sais pas comment dire, je n'ai pas réellement le mot, mais le regard d'un loup lorsqu'il est arrêté, qu'il est face à vous, il y a un questionnement. C'est comme si vous posiez une question. En deux mots, vous êtes un étranger. Lui, il vit en meute. Donc, vous êtes un étranger à la meute, déjà, pour commencer. Mais il ne va pas insister malgré tout. Au comportement seulement, il réagira ou non. Mais en général, le loup ne réagit pas à l'homme dans les conditions actuelles. Des fois, on est obligé d'aller mettre la tente, des tentes qui tiennent à moins 40 dans la neige pour aller les rencontrer. Et subitement, vous les trouvez à Chabestan, dans les rangs de pommiers. Vous voyez, c'est très, très étonnant. On en a eu à Chabestan, on en a eu à Oz, le Seix, le Beauchêne, Vannes aussi. Le loup y est présent.
Et donc, c'est la plus belle rencontre que vous avez faite dans la forêt
Dans les forêts de France, oui.
Quand on randonne dans la forêt, on arrive dans une clairière, et puis on voit tout d'un coup... Tout plein de petits oiseaux, tout d'un coup on les voit, des chardonnerets, des becs croisés, des pinsons qui s'agitent, qui vont d'arbre en arbre. Et ben, on se demande pourquoi là, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui leur prend. Et en fait, c'est parce qu'il y a une chouette chevêchette. Parce que la chevêchette, bien qu'elle soit petite, ben, elle se nourrit des petits oiseaux de la forêt. Donc, ils s'alertent les uns les autres. Attention, il y a une chevêchette dans le coin. Il y en a un qui est le champion des semeurs d'alerte, c'est le jet. Quand on entend le jet hurler, ah, c'est qu'il a vu quelque chose, un prédateur. Et bien souvent, les animaux entre eux, bah, ils disent mince.
Du loup, des bouquetins.
On est repéré.
Tous ces animaux de montagne, je les ai vus. Mais c'est pas moins merveilleux que d'observer le petit. Ça, c'est toujours intéressant à retenir.
J'ai l'impression d'être un homme de Cro-Magnon.
J'étais un an 3000 avant le cétacé.
N'oubliez pas les hommes avant le cétacé.
Tu t'appelles Graour et tu vas chasser le bison. Si tu trouves pas le bison, ta famille meurt.
C'est un cercle, enfin, gratte les sabots.
Ta tribu.
Regarde. Regardez un bout.
Regardez un bout. Avec un gros K. Quand moi je suis un zombie avec un gros Z. Boum boum. Caillou.
En fait, nous sommes tous ici réunis uniquement parce que nos aïeux étaient des chasseurs, des cueilleurs et des pêcheurs.
Caillou.
Ouh.
Tu veux aller jeter des cailloux?
Non, c'est bon, ça va, je tiens le parapluie. Je m'en remettrai, je pense.
Ça fait quelque chose si genre je fais ça, tu vois.
Bah, peut-être comment on pourrait trouver un moyen de faire ressortir un peu cette poésie pour la montrer aux gens.
Vous vous souvenez de votre premier moment dans la montagne, dans la forêt?
Et votre curiosité pour la forêt, vous l'avez depuis petit?
Et moi, c'est Eliane. Je viens ici en tant que coordinatrice du groupe LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, du pays Gapençais. En 2003, on a créé le groupe LPO avec quelques bénévoles de Gap, parce qu'à l'époque, on militait contre la croisière blanche. La croisière blanche, c'était une course qui avait lieu en hiver, dans les milieux naturels, avec des engins motorisés. Nos actions, c'est participer à protéger l'environnement, à protéger les oiseaux, les espèces, surtout les espèces sensibles. Maintenant, elles le sont toutes. On fait le sauvetage des crapauds chaque année. On participe aussi à des inventaires de papillons, d'insectes, en herpétologie, en mammifères. Et puis, on encourage les gens à protéger la biodiversité qu'ils ont carrément autour de chez eux, sur leur balcon ou dans leur jardin. Toutes les espèces sont en fort déclin au niveau des oiseaux. On peut faire une moyenne de 60% d'oiseaux qui a disparu en 30 ans. Ici, on a deux petits rapaces nocturnes qui sont vraiment typiques des forêts de montagne. C'est la chevêchette et la chouette de Tegmalm. Parmi les nocturnes, il y a le petit duc qu'on a corneté. Et lui, il est migrateur. C'est le seul rapace nocturne migrateur. Donc, il arrive au printemps et il est déjà reparti en Afrique. La chouette hulotte autour des palombes, qui est assez forestier. Et puis, alors, il y a tous les autres oiseaux, les passereaux, les grives, des pouillots, des pipites, le pinson, le bec croisé des sapins, dans la famille du geai, le casse-noix moucheté, qui est un corvidé, grand corbeau, corneille, le chouka, le choc à bec jaune, le crabe à bec rouge, les pies, les geais et le casse-noix moucheté. Parmi les corvidés, selon les départements, selon les années, il y en a qui sont encore considérés comme étant susceptibles d'occasionner des dégâts. C'est l'expression qui remplace le mot nuisible. Parce qu'il faut savoir que dans la nature, rien n'est nuisible. Tout le monde a un rôle. Même ce qui ne nous plaît pas à nous, mais ça a un rôle pour tous les animaux, pour toute la vie, pour tous les végétaux. Ah, j'ai oublié une famille d'oiseaux, les piques. Ils sont importants pour les autres parce que ce sont les piques qui creusent des loges pour nicher. Mais cette loge, ils vont l'occuper une année et puis l'année d'après, ils vont en faire une autre. Alors, ce sont les autres oiseaux, comme les sittelles, la chevêche ou la chouette de Tegmalm, qui vont occuper les loges après qu'elles aient été construites par les piques. Ils sont sympas, les piques. Moi, j'aime bien les sittelles. Elle est rigolote parce qu'elle se déplace sur les troncs d'arbres, puis elle descend, elle a toujours la tête en bas, elle est toujours en train de les descendre. Elle préfère les descendre que les monter parce qu'elle n'est pas encombrée par une grande queue qui la gênerait. Donc, elle peut tourner dans tous les sens. C'est vraiment une acrobate sur les branches des arbres. On l'appelle la sittelle torche-peau parce qu'en fait, elle fait de la poterie. Elle va torcher ceux de la terre avec sa salive, un peu comme des hirondelles. J'ai apporté des DVD, des CD que j'utilise, vous voyez, Plumes des bois, des diaporamas. Et puis ici, dans celui-là, écoute des mammifères. Le créateur, Fernand Desroussen, le créateur de ce DVD, c'est un audio naturaliste. c'est-à-dire spécialiste des bruits de la nature. Voilà.
Okay. Ok. Alors, on va juste faire une petite pause. Je vais aller voir si on peut écouter.
Ah, ben c'est... voilà, bonne idée. Oui, voilà, très bien. Voilà la fauvette à tête noire. Alors, je vais passer le soir, cette fois-ci, vers 11 minutes. Voilà, 11 minutes. Là, ce qu'on entend, c'est... Voilà. Est-ce que vous reconnaissez déjà ? Un cerf. On est en pleine forêt, là. Hein ? Voilà, on entend les cerfs au loin. Et on entend un hérisson. Et voilà. Là, vous avez le brame du cerf. Caractéristique. Qui est vraiment le son de l'automne. L'arrivée de l'automne. C'est vraiment le moment de l'année où on peut prendre conscience que le cerf occupe bien la forêt. Vous entendez la hulotte qui n'est pas dérangée par le cerf. Voilà, on entend bien la hulotte. Et toujours le brame du cerf. Le cerf, et c'est le mâle qui brame. Hein. Voilà. Pour s'approprier un harem. Voilà, on est vraiment dans la forêt, au milieu des cerfs. Alors, le plus proche, c'est sûrement un chef qui veut le rester.
La forêt m'a permis de développer l'oreille. J'ai 82 ans et je suis à 100% au niveau de l'ouïe. Fréquenter la forêt, la fréquenter souvent, ben elle vous parle en fait. Elle vous répond, mais il faut que vous soyez réellement à l'écoute. Et elle a l'avantage aussi de vous préparer à cette écoute, la forêt. C'est elle qui vous parle.
Sur l'idée que la nature a été faite à son usage. Avec l'émergence de l'agriculture et du bétail domestiqué,
la problématique fondamentale est devenue de garder le contrôle d'espèces mises à notre service.
D'espèces mises à notre service.
comme mode de rapport au vivant, s'est retrouvé transposé à toutes les formes de vie, même sauvages.
Et voilà comment des millions d'espèces vivantes se retrouvent invisibilisées, alors même que ce sont elles qui fabriquent l'habitabilité de notre monde.
La possibilité pour nous de manger, de respirer, de nous soigner, provient intégralement de la santé et de la stabilité de ce tissage du vivant. Les pollinisateurs, les vers de terre, les forêts anciennes ou la faune des océans.
Alors, est-ce que vous avez donc déjà exploré d'autres forêts dans d'autres pays ou dans d'autres régions ?
J'ai voyagé au Vietnam, à Madagascar, au Québec, en Norvège, en Espagne, en Italie, en Asie centrale. J'ai des très beaux souvenirs. L'allée de Baobab à Madagascar, ou les forêts au Vietnam, ou les mangroves. Mais j'ai beaucoup plus d'imprégnation et de connaissances et d'épaisseur dans le contact avec ce que je vis ici. Et pour moi, ça fait sens parce que c'est ici que je vis. Moi, ce qui fait sens, c'est vivant ici, d'explorer et de découvrir et d'aller à la rencontre et me connecter avec cet environnement et avec lequel je vis au quotidien. Moi, alors, toutes ces connaissances que j'ai acquises par ma curiosité ici, c'est parce que je vis ici et que je répète ces visites.
J'aurais souhaité ce matin vous emmener un ami qui est en retraite, qui est de l'ONF, et qui me parlait hier de forêts primaires dans les Hautes-Alpes. Nous avons une plante dans les Hautes-Alpes qui date des forêts primaires, qui est unique dans toute l'Europe.
Et vous pouvez nous expliquer ce qu'est une forêt primaire ?
Une forêt primaire, c'est une forêt où l'homme n'a jamais... qui se suffit à elle-même. Elle se reproduit en elle-même. Alors ici, on parle de forêt. Moi, je préférais parler de bois. Nous sommes dans des bois. La forêt, c'est autre chose. Dans une forêt primaire, on n'y pénètre pas facilement, quoi, je veux dire. Hein.
Dans chaque forêt, on va avoir deux grands arbres, des plantes plus petites. Il y a toujours des écosystèmes avec certaines similitudes, même si à un endroit, ça sera plus humide, plus chaud, plus tropical, plus exubérant. Après, c'est sûr que dans des forêts tropicales, il y a beaucoup plus d'espèces que n'importe quelle forêt les plus riches d'Europe, même ici. Au Costa Rica, vous avez une densité exceptionnelle d'espèces vivantes terrestres. Ce n'est pas comparable, même si ici, on dit qu'on a un environnement exceptionnel par rapport aux autres environnements européens. Mais par rapport au Costa Rica, par exemple, c'est pas grand-chose par rapport à la diversité.
Lorsqu'on vous demande, à cause des problèmes climatiques d'aujourd'hui, de nettoyer le sous-bois, c'est ce qu'il y a de pire, en fait. Parce que vous dégradez la forêt complètement, cette fois-ci. Le sous-bois, c'est le vivant. Quand vous avez un arbre qui tombe, parce qu'il est vieux, parce que il a été rongé par je ne sais quel insecte ou quoi. De toute manière, il est utile. Je dirais que ne touchez pas. À l'intérieur de ce tronc, vous avez des millions d'insectes, de tout ce que vous voulez.
Alors Descola, c'est un chercheur français qui est très important, qui a énormément étudié les communautés en Amazonie. Et c'est pour ces communautés, il n'y a pas de distinction entre l'homme et la nature. C'est le vivant. Je ne vais pas dans la nature, je me reconnecte, je suis au contact du vivant dont je fais partie.
La mort en soi, celle qu'on perçoit dans la forêt, un arbre qui est vieux, qui est tombé, qui pourrit, il est semence de vie à nouveau. Il n'y a pas de disparition. Il y a un continuum. La forêt primaire, c'est le vivant. Aujourd'hui, ce n'est plus le vivant. En Europe, la forêt, c'est l'exploitant, l'exploitation.
Après, il y a aussi d'autres évolutions, c'est-à-dire qu'avec le réchauffement climatique, effectivement, la forêt, elle monte en altitude. Il y a tout aussi toute la déprise agricole, parce que il y a énormément de surfaces qui sont plus du tout cultivées, qui fait que la forêt est en train de reprendre. En soi, c'est très bien que la forêt, évidemment, fasse sa vie, hein, mais c'est très bien qu'il y ait des espaces ouverts aussi, parce que les espaces ouverts sont des milieux très très riches. Et les milieux les plus riches au monde, c'est toujours les milieux interfaces, les entre-deux. Un delta, par exemple, notamment dès qu'il y a la proximité de l'eau, c'est toujours très riche. Ce n'est pas le cœur de la forêt où il y a le plus de monde, c'est toujours dans des zones tampons, entre deux milieux. Les frontières, c'est toujours des endroits super.
En forêt, qu'est-ce que vous ramassez ?
Des champignons à toutes sortes de baies, des petites prunelles que j'ai mis en lactofermentation pour faire comme la recette des umeboshi japonaises, des l'églantier, l'épine vinette, les baies d'aubépine, les framboises, après les mûres. Si je fais une salade à l'optimum, là où il y a le plus de plantes, je vais mettre de la laurige, comment elle s'appelle celle-là, l'épervière, la borse de Pasteur, des têtes de jeunes pousses de lavande pour aromatiser ou d'absinthe. Il y a la pimprenelle, la sauge officinale, la doucette, toute la famille des petites ciboules, des petits poireaux sauvages. Des fleurs de trèfle, des fleurs de violette, plein de petites fleurs que vous pouvez mettre dans vos salades aussi, qui sont comestibles. Donc ça vous fait des salades très colorées et très goûteuses. Donc du coup, très puissantes en goût, c'est très très intéressant.
Dans cette forêt belle en toutes circonstances, une tache noire vient terrifier vos sens. J'échange vos champignons, prêts pour une indigestion. Bolé à pied rouge contre bolé Satan, en enfer maintenant. Amanite épaisse remplacée par amanite citrine, grosse remontée gastrine.
C'est la couleur, mais là.
Celle-là.
Ah ça, c'est un des meilleurs du monde. La manie des Césars, qui s'appelle aussi l'orange.
L'homme peut le consommer sans aucun
souci. Ça se mange très souci. Bon, c'est passé, hein. C'était sur septembre. Il y a eu ici beaucoup de cèpes et beaucoup d'oranges. Mais pareil, hein, il y a les sols qui comptent. Hein. On ne trouve pas ça partout. Bah, par exemple, l'orange ou les petits cèpes bien bombés, tout neuf, tout beau, en petites lamelles crues avec de l'huile d'olive et un peu de sel et de poivre. Et c'est très, très bien. Avec toutes les petites chanterelles, là, des petites omelettes. Là, maintenant, il va y avoir pas mal. Bon, les girolles, les trompettes de la mort. Les petits gris, les pieds de mouton, les sanguins. Donc voilà, vous avez tout ça à ramasser là.
Comment Parce que du coup, il y a des forêts qui ont été créées par l'homme, mais les forêts qui n'ont pas été créées par l'homme, je me demande comment ça se fait que d'un seul coup, il y a plein d'arbres qui ont poussé au même endroit.
Quelles sont les meilleures actions pour qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour continuer à la protéger sans trop impacter sur tout ce qui se passe à l'intérieur?
Bolé Satan.
Jaune,
gonfie de glutine,
safran,
paxille enroulée,
jonquille,
amanite
chrome,
épaisse, amanite
or,
rougissante,
ambre, ocre,
l'épiote âpre,
tangerine,
l'épiote élevée, coulemelle,
corail, pourpre.
Actuellement,
cagarence,
vous avez les pommiers sauvages,
vernis,
c'est le moment de ramasser les glands,
cinabre, cramoisi, carmin,
orchis, amarelle,
terreau,
prune sauvage, si vous avez le bonheur de
bleu
trouver,
saphir, nickel,
je répète ces visites,
musaraigne.
Inocible de patouillard.
Cueillez-le vite parce que vous aurez
printemps,
une canne à vie.
Colombe de la Saint-Georges,
bruit,
mousseron de printemps.
Jaune,
esprit,
safran,
à pied en
noir, jonquille,
chrome, armillaire, couleur de miel,
aurore, ambre,
cortinaire,
ocre,
à odeur de bouc,
je répète, ébellum,
à pied fusiforme,
chrome,
coprin chevelu,
à condition de la découper en lune,
amarante,
descendante.
Allez vous promener, allez dans la nature, prenez des moments de contemplation, des moments d'affût, enfin carrément de se mettre à l'affût, se faire le plus discret possible, ne pas faire de bruit. Si on veut vraiment qu'elle nous pénètre, eh ben le mieux c'est de se laisser envahir par cette atmosphère.
Mais ne jamais perdre de vue que le vivant n'est pas là pour nous faire plaisir, il est là, ni pour être bien, ni pour être mal, il est.
C'était une belle promenade.
Et finalement, on s'est presque pas perdu.
Et on a presque trouvé un chemin. Trouver un chemin.
Prendre un risque.
Respirer un sentier imprévu. Mordre dans un fruit défendu. Être un lutin maléfique, un personnage magique.
Courir dans un sous-bois après un second souffle.
Observer ma respiration.
Faire baisser ma tension.
Vivre libre en vivant dans les bois.
Oublier un instant les chagrins du présent.
Tourner une page.
Écrire un nouveau chapitre.
Prendre le vivant à la lettre.
Copier ses inventions solidaires.
Pensez à vous. Pensez à vous.
Vous venez d'entendre Un micro dans la forêt, une réalisation sonore de
Flore,
Lilian,
Alexandre,
Jasmin,
Mona,
Joseph,
Maxime,
Laurent et Nénu, avec la participation de Ange, Eliane et Philippe. Monté et mixé par Nénu et mis en scène par Laurent et Rochum. Cette création pour la radio et le théâtre a été pensée, réalisée pendant le stage Radio des Fous Furieux. Un projet de la Compagnie du Pas de l'Oiseau en partenariat avec RAM 05 et avec le soutien du Centre de ressources des Hauts Pays Alpins dans le cadre du festival La Fureur de Dire, édition 2025.